L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « La parabole du fils prodigue ». Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre tes instructions, pour entendre tes directives. Bénis les différents auditeurs qui nous écoutent de par le monde francophone. Bénis les radios qui nous aident à faire connaître ce message, Père. Parle au travers de chacun d'entre nous. Parle au travers de ce message pour chacun d'entre nous. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La parabole du Fils prodigue. Dans Luc 15, versets 11 à 24, il est dit ceci. Luc 15, versets 11 à 24. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez ici la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Très belle histoire. Une parabole, par définition, c'est un enseignement spirituel illustré par des faits de notre vie de tous les jours. Lorsque Christ parle, Christ, son souci est de nous faire comprendre, à vous et à moi, toutes les réalités, toutes les vérités du monde spirituel. Il prend l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Le plus jeune, par un esprit de rébellion, par un esprit peut-être de haine, de guerre, de convoitise, de jalousie, ne veut plus être sous la supervision de son père, ne veut plus être dirigé par son père, ne veut plus rendre des comptes à son père, ne veut plus être sous l'autorité, la protection, l'amour de son père. Il lui demande une partie, il lui demande sa part d'héritage, une partie du bien de son père, et il s'en va. Et là où il vit dans le péché, dans la débauche, dans peut-être le mensonge, la cupidité, l'homosexualité, le lesbinage, l'avortement, le meurtre, bref, il vit dans le péché. Et se rendant compte qu'il a tout perdu, il part se mettre au service d'un homme qui va lui demander de garder des choses que lui, en tant que juif, et selon les coutumes de Moïse, considérait comme étant impures. Mais pire que cela, on ne va même pas lui donner à manger, il va commencer à convoiter, à désirer, même manger la nourriture de ces animaux impurs. Tellement le péché l'a rétrogradé, le péché l'a rabaissé, le péché l'a tellement diminué que même les aliments des animaux impurs pour lui étaient quelque chose de délicieux. Mon frère, ma sœur, je le dis peut-être pas assez, ou peut-être je le dis trop, peut-être vous allez dire que j'exagère, mais je ne vois pas comment je peux le dire d'une autre manière, si ce n'est que dire que le péché détruit les hommes. La Bible dit que la justice élève les nations et que le péché rabaisse les nations. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous dans votre commune, dans votre quartier, dans votre nation. Le péché est partout. Le péché est à la télévision, le péché est à la radio, le péché est dans des livres, les péchés sont dans des films, dans la musique. Le but du péché est de détruire votre relation avec Dieu, votre relation avec votre prochain, et de vous détruire vous-même. Aujourd'hui, nous avons des entreprises, des industries qui nous produisent du péché. Des hommes et des femmes qui sont en train de faire de l'argent à partir du péché, qui profitent du péché pour se faire de l'argent. Ils se détruisent eux-mêmes et détruisent les autres. Mon frère, ma sœur, ne nous laissons pas séduire. La parabole du fils prodigue, pour moi, est d'abord une parabole qui s'applique d'abord aux enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est parlé de deux enfants qui sont dans la maison de leur père. On ne parle pas d'enfants qui sont en dehors de la maison de leur père. Pour moi, on doit d'abord regarder les rétrogrades dans la maison de Dieu. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, qui au fur et à mesure Jésus-Christ, sont en train de se refroidir, sont en train de revenir en arrière. Certains commencent à regretter d'avoir marché avec Christ, d'avoir donné leur vie à Jésus-Christ. Ils sont mariés et ils se disent « Ah, si j'étais célibataire, j'aurais pu avoir des relations sexuelles avec beaucoup de filles. Si j'étais païen, j'aurais pu voler de l'argent. J'aurais pu faire telle chose, telle autre chose. » Il n'y a pas de saveur dans leur vie parce que quand ils regardent en dehors de la présence de Dieu, ils ont l'impression que le bonheur se trouve en dehors de Christ. Il n'y a pas de bonheur en dehors de Christ. Ce qui est vrai, il y a la satisfaction de la chair. Mais la satisfaction de la chair n'est pas le bonheur. Le bonheur est un état permanent de paix intérieure. Ça ne dépend pas des circonstances extérieures. Ça dépend de sa relation avec Christ. Le bonheur ne peut être offert que par Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas le bonheur dans votre cœur, alors c'est que vous n'avez pas compris où se situe le bonheur. Certains, comme le fils prodigue, croient que le bonheur c'est dans la débauche, dans la boisson, dans les plaisirs sexuels, dans des films, dans la musique, d'autres dans la nourriture, d'autres dans la drogue, d'autres dans des jeux, d'autres dans le sport, d'autres dans des voyages. Tout ça n'est pas mauvais, sauf la drogue évidemment. Avoir des relations sexuelles, c'est pas mauvais, mais nous restons dans le cadre que Dieu a tracé. Faire du sport, ce n'est pas mauvais. Manger, ce n'est pas mauvais. Nous avons besoin de nourriture pour nourrir notre corps, pour fortifier notre corps. Nous avons besoin de nourriture. Nous sommes dépendants de ces choses. Pour eux, il faut absolument qu'ils achètent les derniers vêtements. S'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas jouir du bonheur. Mon frère, ma sœur, le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Ayant tout dépensé, se rendant compte que sa vie n'avance pas, sa vie est en train de reculer, il perd, ce n'est pas ce qu'il avait projeté, il se met à réfléchir, à analyser les circonstances. Gloire à Dieu pour les enfants de Dieu qui s'asseyent au jour du malheur et qui sont en train de réfléchir. Si je suis dans cette circonstance, quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité? Alors il se rend compte qu'il a trahi Dieu, qu'il a trahi son père, qu'il s'est trahi lui-même. Le chemin de la repentance commence par le fait de souffrir à l'intérieur par rapport à sa relation avec Dieu. Il a brisé sa relation avec Dieu et il regrette. Il se repent, il a mal. La porte de la repentance conduit au pardon, au salut. Mon frère, ma sœur, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse convaincre une personne de péché, de justice et de jugement. Si vous connaissez des hommes et des femmes autour de vous qui vivent dans le péché, il faut leur parler de Jésus-Christ, mais il faut aussi prier pour eux. Parce que seul le Saint-Esprit peut leur convaincre qu'ils sont sur la mauvaise voie. Voilà pourquoi je me permets d'ouvrir aussi une parenthèse. Vous qui êtes parents, qui avez des enfants, enseignez-leur la parole de Dieu dès leur plus jeune âge. Dès leur plus jeune âge. Parce que ce jeune homme, s'il est revenu chez son père, c'est parce qu'il a vu la bonté de son père envers des serviteurs. Il dit, mais chez nous, il y a beaucoup de mercenaires. Chez mon père, il y a beaucoup de mercenaires. On les traite avec égard, avec justice, avec bonté, avec miséricorde, avec amour. Mais pourquoi je n'irais pas être simplement un serviteur puisque j'ai perdu ma relation avec mon père? Ce sont des souvenirs qui sont restés dans son cœur. Nous devons prêcher l'évangile. Vous savez, je ne sais pas combien d'hommes et de femmes, écoutent ce message de l'émission Venez à Jésus. Je ne sais pas combien. Et certainement toute ma vie, je ne le saurai pas. Mais je suis convaincu que ces quelques paroles que vous entendez sont des semences qui sont en train d'être semées dans votre cœur, qui sont en train d'être semées dans le cœur de millions d'hommes et de femmes. Et je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, cette semence va porter du fruit pour l'éternité. Non seulement pour les auditeurs, mais aussi pour moi. Le monsieur se réveille, il se dit, mais je regrette, je me repens des actes que j'ai faits. Et maintenant, je vais aller vers mon père et me réconcilier avec lui, qui me prenne comme un simple serviteur. Donc, lorsqu'on se repent, on ne doit pas seulement se contenter de regretter. Il faut s'y passer à l'acte et se présenter devant le Père. C'est ce qu'il va faire. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il se leva et alla vers son Père. Toute repentance doit être accompagnée des actes qui correspondent à la repentance. Jésus dira dans Matthieu 3, non pas Jésus, la Bible dit, pardon, Matthieu 3, verset 8. Il nous est dit ceci. Matthieu 3, verset 8. Je pense que c'est Jean-Baptiste. Hein? C'est Jean-Baptiste qui parle, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la prédication de Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Jean-Baptiste parle aux gens de son époque. Ils disent, vous êtes en train de vous repentir, vous êtes en train de regretter votre vie de péché, c'est très bien. Mais n'hésitez pas là. Produisez des actes qui correspondent à la repentance. J'aimerais qu'on relise une partie du chapitre 3. Au verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean était celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, on va au verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environnants du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que c'est Pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui sont passés par les eaux du baptême, c'est très bien. Certains même sont baptisés du Saint-Esprit, c'est très bien. Certains même prêchent l'évangile, c'est très bien. Certains sont des diacres dans l'église, c'est très bien. Mais Dieu nous dit, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire, mais est-ce que les actes que vous êtes en train de poser dans votre vie de tous les jours, au fur des années, est-ce que ces actes confirment que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ? C'est-à-dire, avant votre conversion, vous étiez un voleur. Vous vous êtes converti, c'est bien. Vous êtes passé par les eaux du baptême, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, très bien. Vous officiez dans l'église, c'est très bien. Mais est-ce que le péché de voler, vous avez abandonné cela? Aujourd'hui, nous retrouvons dans des églises toujours des voleurs, toujours des adultères, toujours des homosexuels, toujours des menteurs, toujours des idolâtres, des gens qui ont des fétiches, des gens qui font partie des sectes occultes, qui font partie des sociétés secrètes, mais dans l'Église de Jésus-Christ. Jean-Baptiste nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, produisons des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que si je dis que je suis chrétien, que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ma vie doit être conforme à Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a volé, a menti, a tué? Est-ce que Jésus-Christ vivait dans l'adultère? Oh, on peut tout dire sur Jésus par le monde scientifique. Mais nulle part dans les Écritures, on a vu Jésus en train de mentir, de voler, de tuer, de commettre l'adultère. Produisons des fruits dignes de repentance. C'est-à-dire que vous êtes marié, par exemple. Vous êtes en train d'entretenir une relation en dehors de votre mariage, une relation adultère. Eh bien, si vous vous êtes repenti, que vous avez compris que ce n'est pas bien, il est logique que vous abandonniez cette relation. Si vous étiez un voleur, vous ne vous contentiez pas de votre salaire. Vous avez compris que c'est une vie de péché. Mais il est logique et normal d'abandonner, de rester. Vous viviez dans le mensonge, ben arrêtez de mentir. Vous pratiquez les sciences occultes, ben démissionnez de ces sociétés secrètes. Brûlez tous les livres qu'on vous avait donnés. Abandonnez cette vie. Sortez toutes ces statues, toutes ces images idolâtres qui représentent Satan. Et revenez et marchez droitement devant Jésus-Christ. C'est normal. C'est ça, les fruits dignes de la repentance. Il faut que ceux qui nous connaissent dans nos familles disent que celui-là, il a réellement changé. Et ce qui veut dire aussi que nous qui sommes chrétiens, qui peut-être nous ne pratiquons pas le péché visible aux yeux du monde, mais dont nos femmes connaissent nos faiblesses, puisque nous devons continuellement produire des fruits dignes de repentance, si nous savons que nous mettre en colère est une mauvaise chose, bah, il faut que nous progressions dans ce domaine-là, que nous abandonnions la colère, que nous abandonnions le mensonge, que nous, je ne sais pas quel péché s'attache à nous, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et tant que nous serons dans ce corps, nous ne serons pas parfaits. Mais nous sommes en Christ, parfaits devant Dieu, et nous sommes perfectibles. Ça veut dire que nous nous rendons chaque jour bien meilleurs. Il faut que le Raphaël d'aujourd'hui soit différent du Raphaël d'hier. Il faut que je sois meilleur. Je suis même tenté de dire, il faut que je devienne chaque jour une meilleure version de moi-même. Autour de mes collègues, il faut que mes collègues disent, je peux faire confiance en Raphaël, en matière d'argent, en matière de femme, en matière de vérité, parce que c'est quelqu'un qui veut refléter Christ. Je prends le cas de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays à plus de 90-95% des chrétiens. Mais nous sommes le pays le plus pauvre. Nous sommes parmi les pays les plus corrompus, nous sommes des pays en guerre. Aujourd'hui, on ne sait même plus faire confiance à des pasteurs parce que nous ne produisons pas des fruits dignes de la repentance. Matthieu 7, verset 16. Matthieu 7, verset 16 dit: tout arbre bon porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, vous voyez. C'est donc aux fruits que nous reconnaissons, si réellement cette personne est convertie, elle est en train de progresser avec Christ. C'est par les fruits que je produis que vous savez dire si Raphaël est un enfant de Dieu ou un enfant du diable, si c'est un chrétien ou c'est un hypocrite. Jésus dit, c'est très clair, vous ne pouvez pas être bon et porter de mauvais fruits, comme vous ne pouvez pas être mauvais et porter des bons fruits. Mon frère, ma sœur, on ne peut pas produire quelque chose qui n'est pas de sa nature. On produit sa nature. Si nous sommes un impudique, nous allons produire des actes impudiques. Si dans notre cœur bouillonne les semences de l'adultère, je serai un adultère dans tout ce que je suis en train de faire, un infidèle. Si je suis un menteur, ça va se savoir. Vous savez, Il y a de ces péchés qu'on ne peut pas tromper. Vous mentez ici, vous mentez là-bas, vous mentez. Vous ne pouvez pas cacher ces péchés-là longtemps. Si vous êtes un impudique, ça va se savoir. Alors, si vous vous êtes repenti, vous devez produire des fruits dignes de la repentance. Le jeune homme dans la parabole du fils prodigue se repent d'avoir désobéi à son père. Mais il ne se limite pas seulement à se repentir. Il se lève et il va aller voir son père pour dire à son père pardon. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il pose des actes par rapport à son acte de repentance. Mon frère, ma sœur, si vous savez que le péché est une mauvaise chose, vous devez maintenant produire des fruits dignes de la repentance. Dans c'est Jacques 2, verset 17, on va lire. Jacques 2, verset 17. Le Saint-Esprit nous dit ceci dans Jacques 2, verset 17. J'aimerais commencer au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Allons au verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques ici veut nous dire, c'est bien de dire que je suis chrétien, c'est bien de dire que je suis sauvé, mais où sont les œuvres qui prouvent que tu as changé de vie? Où sont les œuvres qui prouvent que tu n'es plus un pécheur? Où sont les fruits qui prouvent que tu appartiens à Christ? Les œuvres sont le témoignage de ce que nous sommes à l'intérieur. Les paroles que nous disons sont la preuve de ce qui existe en nous. Notre façon de réfléchir s'exprime par nos paroles. Notre façon de nous comporter prouve ce que nous sommes à l'intérieur. Si nous sommes des pécheurs, des simples pécheurs, et non pas des pécheurs sauvés par grâce, mais si nous sommes des pécheurs pratiquants, si voilà ce que je veux dire, nous allons exprimer ce péché dans notre vie de tous les jours. Oh, on peut être membre d'église, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, archibishop, méga-bishop, tri-bishop, quadri-bishop, district-bishop. Si à l'intérieur, Christ ne nous a pas changé et que nous n'exprimons pas cet amour, cette transformation dans notre vie de tous les jours, nous sommes des menteurs. Alors nous tombons dans cette loi que dit Jacques. La foi que nous prétendons posséder ne sert à rien. Puisque nous sommes des menteurs, nous disons que Jésus-Christ est Seigneur et bien vivant, et ça c'est pas faux. Mais les actes que nous posons renient ce que nous sommes en train de dire sur Christ. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel était son état. Ça veut dire que si je comprends, je suis convaincu que mentir n'est pas bien, je me repens, c'est normal, je dis Seigneur, je te demande pardon d'avoir menti. Mais dès qu'une occasion se présente de mentir, je mens même. Jacques dit, mais ce que tu as entendu de la parole de Dieu, tu ne l'as pas mise en pratique. Tu es semblable à un homme qui s'est regardé dans un miroir, il a vu de la saleté, au lieu de se nettoyer et de ne plus retomber dans les mêmes erreurs, il a oublié, il est reparti et il retombe dans les mêmes choses. Voilà pourquoi je disais dans une des émissions, beaucoup des gens, leurs repentances ne sont pas vraies. Ils se sont repentis parce qu'ils se sont fait attraper. Ils volaient. Tant qu'on ne l'avait pas attrapé, il n'y avait pas de repentance. Ils trichaient, ils vivaient dans l'adultère. Tant qu'on ne l'avait pas attrapé, il n'y avait pas de problème. Mais dès l'instant où on l'a attrapé, il va voir le pasteur, il commence à demander, priez pour moi, voilà, je suis tombé dans tel péché, je suis tombé dans tel péché, je suis tombé dans telle erreur, je vais perdre mon travail, je vais perdre ma femme, je vais ceci, j'aurai honte, je serai humilié. En fait, sa repentance et son acte de confession sont dictées par le fait qu'il a été attrapé. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose, mais quelque part, c'est un peu triché. Parce que il faut arriver à des stades où vous comprenez que ce que vous êtes en train de faire est mal, le Saint-Esprit vous parle, vous arrêtez et vous produisez des fruits dignes de repentance. Mettons en pratique la parole de Dieu et ne nous trompons pas nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas tromper Dieu. Si nous sommes en train de tromper quelqu'un, c'est nous-mêmes. C'est les autres, ce n'est pas Dieu. Un jour ou l'autre, Dieu va faire sortir la vérité. Mon frère, ma soeur, si Dieu vous a parlé dans cette émission d'aujourd'hui, il vous donne l'opportunité de vous repentir. Si c'est cela votre désir, si c'est cela votre prière, c'est très simple. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi. J'ai entendu ta voix, j'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton message. Je te demande pardon. Pardon pour ma rébellion, pardon pour mon péché. Je me suis repenti et maintenant, Seigneur, je veux poser des actes dignes de repentance. Ne me rejette pas au nom de ton Fils Jésus-Christ. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Donne-moi un nouveau départ avec Jésus-Christ aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous entende. Je suis Raphaël Mambou, nous nous retrouvons dans quelques instants après ce message publicitaire.
Pour votre croissance, votre édification ou votre connaissance spirituelle, découvrez l'émission « Venez à Jésus ». Écoutez et téléchargez gratuitement l'émission « Venez à Jésus » sur le site www.jesuspourtous.org. Retrouvez gratuitement les différents thèmes abordés comme l'identité du croyant en Christ, la seconde venue de Jésus, la mort de Christ et bien d'autres enregistrements. Rendez-vous sur www.jesuspourtous.org, www.jesuspourtous.org.
Bon retour à l'émission « Venez à Jésus ». Je suis Raphaël Mambou. Je suis convaincu au plus profond de mon cœur que le message que vous êtes en train d'écouter maintenant sur la parabole du Fils prodigue va changer votre vie. Pas parce que c'est la parabole du Fils prodigue, mais parce que c'est la parole de Dieu. Mon frère, mon ami, ma sœur, n'abandonnez pas Christ à cause des biens de ce monde. N'abandonnez pas Christ à cause des souffrances. Au contraire, persévérez avec Jésus-Christ. Je suis convaincu que Dieu a un plan pour votre vie. Ma prière est que vous puissiez écouter tout ce thème en entièreté. Vous pouvez nous contacter, aller sur notre site internet et télécharger gratuitement tous ces enseignements. Je suis Raphaël Mambou. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Fils prodigue. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.